liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 42, année 2015. Salut Manu.
Fameuse semaine pour une fameuse revue de presse. Donc, salut Nico.
Salut Luc. Bon, j'espère que vous avez tous vos serviettes. Et en attendant la destruction de la planète, Manu, tu vas nous parler du sommaire.
Oui, on va passer aux choses importantes. Donc, la consultation pour la République numérique, le logiciel libre en Algérie, le cloud au Québec et les petits soucis du libre, les avions à la merci des pirates, truc intéressant, les DRM dans les formats d'image, des experts qui requièrent du libre pour les firmware, que vraiment quelque chose de pas mal aussi, et puis un petit article sur le TAFTA à la fin.
Libération, plus de 140 000 votes pour la consultation en ligne sur la République numérique. Un article d'Amaël Guiton.
Donc la consultation numérique, on en avait déjà parlé en vue de presse, c'est un projet de loi en fait collaboratif qui a été lancé par le gouvernement où les internautes peuvent publier leurs commentaires sur les lois, proposer des articles de loi, voter sur les propositions ou les commentaires. Et le but, bah, c'est que le gouvernement s'engage à tenir compte des remarques des internautes pour bâtir le futur projet de loi qui sera présenté au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Donc beaucoup de contributeurs, 20 000 inscrits, les élus sont plutôt contents de la situation parce qu'en gros, ils ont eu pas mal de contributeurs.
Enfin, les élus, non. Puisque c'est en fait Axelle Lemaire qui n'est pas élue puisqu'elle est secrétaire d'État, mais elle a dû être élue à un moment ou un autre, je pense, dans sa carrière politique. Mais en tout cas, effectivement, elle déclare que c'est un succès supérieur à ses attentes.
Alors, on va dire quand même un peu dans les résultats, dans les 10 plus fortes propositions, parce qu'il y a un classement à la fin, et donc l'april.
Il y a l'april, il y a la quadrature du net, il y a plein de propositions de loi autour de justement l'open data, etc. Donc c'est vrai que la communauté libre a quand même vachement réagi sur ce truc-là, et c'est vrai que dans les top 10, on a quand même bien trusté le podium.
Alors il y a eu des discussions oui-non sur l'article de Wikipédia notamment, donc ils ont eu beaucoup de votes, mais pas mal de votes négatifs, on se demande un petit peu de quoi ça tourne.
Alors c'était sur la liberté de panorama, on rappelle, hein, c'est cette idée qu'on puisse prendre des photos de bâtiments qui sont couverts par le droit d'auteur, puisqu'aujourd'hui, les droits d'auteur s'appliquent également sur les photos qu'on pourrait prendre de bâtiments sur la voie publique, ce qui est absurde parce que voilà, c'est le monde qui nous entoure et on n'a pas le droit de le photographier, en tout cas on n'a pas le droit de diffuser les photos qu'on aurait prises de ces bâtiments, et donc beaucoup de réactions négatives à ça, et donc nous les libristes on était là, mais il y avait aussi des lobbies qui étaient présents et qui ont proposé des choses qui allaient dans leur sens, et un des gros intérêts de la démarche c'est de rendre tout ça transparent, parce qu'on sait que les lobbies ils travaillent plutôt dans l'ombre, ils ont des moyens considérables, et là l'avantage de cette démarche c'est de mettre... Alors, tout le monde sur un pied d'égalité parce que bah, ils ont des moyens qu'on n'a pas.
On l'a bien vu, parce que le top 1, ouais. En fait, le top 1, c'est un lobby qui l'a fait. En 24 heures, ils ont pulvérisé tous les autres, alors que ouais. Nous, ça fait 20 jours qu'on travaillait dessus. Ils ont fait 4000 voix en 24 heures, quand nous, on a fait 2000 en même pas 18 jours.
Alors, j'ai cru comprendre, donc c'était un truc par rapport à des jeux. Alors.
Bon, c'était sur l'e-sport, et il y a plein de gamers hein, qui sont motivés, etc. Donc, il y a plein de forums, plein de joueurs et tout. Donc, je suppose qu'en sollicitant ces gens-là, ils peuvent quand même facilement mobiliser des voix. Ça me paraît pas complètement absurde, ni complètement irréaliste. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui va découler de tout ça. Parce que tout ça a été discuté, mis en avant, etc. Ça reste à passer dans le projet de loi et à voter. Et on a pu voir ces dernières années que c'est en général à cette étape-là que les choses se passent mal. Maghreb émergent, le logiciel libre, une option encore méconnue dans l'administration algérienne, un article d'Abdelkader Zahar. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'Afrique du Nord et de logiciels libres. Hein. À une époque, ça venait souvent dans la revue de presse, et donc on est content que ça revienne.
Oui, mais c'est pas super positif non plus. Il semblerait qu'en Algérie, malheureusement, les institutions, les administrations ne font pas beaucoup de logiciels libres.
Ah, c'est même pas beaucoup, c'est que ça n'existe clairement pas. En fait, c'est pas mentionné du tout dans les lois. Il n'y a pas de publicité ni de communication sur le sujet, donc ils sont vraiment complètement à la ramasse. Mais aussi parce qu'ils ont eu des partenariats avec Microsoft par le passé, et c'est vrai qu'ils sont un peu pieds et poings liés avec eux. Du coup, ils sont dans une situation qui sont beaucoup plus délicates que ce que nous, on a pu avoir en France, donc pour ça que le logiciel libre s'est fait un peu dégager de partout là-bas.
En tout cas, on en parle, et ça c'est déjà pas mal, parce que on pourrait avoir une situation encore plus bloquée où le truc soit juste silence total sur le sujet, et voilà, ça fait quand même des vagues.
Donc, ils regardent du côté de la France, hein, et justement, les directives ERO, où les administrations doivent un petit peu regarder du côté du libre, est-ce que c'est une priorité, ou est-ce que c'est au moins mettre à égalité avec les logiciels propriétaires. Ils n'ont même pas ça, il semblerait pour l'instant, mais justement, bah, l'auteur de l'article, il met en avant, bah, il faut un petit peu bouger et se mettre au libre, parce que c'est de l'intérêt national d'utiliser ce genre de technologie, plutôt que de rester avec des boîtes américaines en général, qui coûtent cher, qui nous font perdre le contrôle, donc c'est quand même pas mal. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il y ait des faits qui suivent. Bah, un petit peu comme avec les demandes des institutionnels français. Hein, qu'est-ce qu'ils font ensuite pour faire avancer le libre ?
Le journal de Montréal, le centre du libre éclate, un article de Jean-Nicolas Blanchet. Et donc celui-là, ben, c'est un petit peu en écho à ce qui se passe en Algérie, puisque au Québec, ils ont pris des positions politiques très favorables au libre, mis en place une institution dont on apprend qu'elle est en train de se casser la gueule, notamment parce qu'ils n'ont pas mis les moyens dedans. Ils ont construit une coquille vide qui, voilà, à lire l'article, a l'air d'être une sorte de prétexte pro-libre, mais pas suivi d'effet, quoi.
Voilà, donc ça s'appelle le centre d'expertise en logiciel libre du gouvernement, donc le CEL. Et effectivement, il n'y avait pas de moyens, rien du tout, donc il y a eu un petit message de publier sur le site en disant, bah voilà, on ferme les portes, on est refusionné avec un autre truc.
Une direction,
voilà, la DSI, la DSI du Québec. Et donc, bah voilà.
Ils étaient supposés être au moins une vingtaine, avec des experts du libre qui étaient capables de donner des directives, de mettre en place certains logiciels. Donc, effectivement, pas les moyens, pas de gens qui poussent vraiment derrière. C'était juste des intentions et des promesses qui n'ont été suivies de rien.
Voilà, ils sont 8, dont un qui va partir en retraite, donc on comprend que c'est un petit peu la rigolade. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour le Québec, où on sait qu'il y a beaucoup de bagarres là-bas, avec Facile, hein, cette association québécoise qui est très très active, et on espère que voilà, ça va bouger. Il y a le Parti québécois, le PQ, on ne rigole pas, j'ai dit on ne rigole pas.
Ouais. C'est pas facile.
Oui. et donc qui a réagi là-dessus, donc s'il y a des enjeux politiques, c'est déjà un petit peu d'espoir, quoi. Le MagIT PASS open source, les principales difficultés rencontrées, un article de Stephen G. Bigelow.
Donc PASS, donc c'est plateforme as a service. En gros, c'est on va vous fournir une plateforme complète dans le cloud.
On vous le loue,
voilà.
Plateforme, tu veux dire comme les plateformes shoes, quoi, des trucs, non?
Comme les plateformes pétrolières, oui, c'est ça,
bien sûr. On vous fournit en fait un environnement dans le cloud avec plein d'outils à disposition.
Environnement vraiment technique.
Voilà, quoi. C'est très très technique pour le coup, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pousse pas mal un peu partout en ce moment. Et donc là, ça fait le point sur comment est-ce qu'on fait pour en faire en version open source et libre et dans les entreprises.
Donc il y a quelques points à faire attention. Donc si vous êtes dans ces choses-là, c'est intéressant. Ça parle de data center, hein, déplacer de l'infrastructure que vous allez peut-être héberger d'habitude chez vous, vous allez gérer l'électricité chez vous, des choses comme ça. C'est pas facile à faire, mais justement le passer en cloud, quand on fait du libre, surtout quand on fait du libre, c'est beaucoup d'avantages. On ne perd pas forcément en maîtrise. Oui, on loue quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut être très ouvert et très facile à prendre en main et à s'en dégager. S'il y a un problème un jour, on peut partir. C'est un des avantages du libre. Moi, je pousse pour ça. Mais c'est vrai que le cloud, c'est toujours un sujet un petit peu compliqué. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent être différents. Il n'y a pas que la plateforme. Ça peut être d'autres choses qui sont louées en nuage. Et ça peut être parfois un petit peu perdu, quoi.
Voilà, donc l'article dit quand même que le libre dans le domaine est assez jeune et que du coup, on n'est pas trop sûr de où ça va, et ceci et cela. Enfin...
Bêtise à mon avis. Hein. Le libre, il est plutôt vieux dans le cloud. On pourrait même dire que ça date d'avant. Parce que c'est des concepts qui sont simplement refaits. Hein.
Ils ont mis un terme marketing par-dessus pour essayer de revendre du vieux au prix du neuf.
Technique de l'ingénieur, les avions à la merci des pirates, un article de Philippe Richard.
La France a peur.
Ouais, ben, là, c'est vrai que ça fait quand même un peu peur quand une fois qu'on a lu cet article-là.
Donc en gros, c'est quoi ? C'est on peut prendre le contrôle d'un appareil avec de l'informatique, voilà. en bidouillant, en se branchant à certains endroits. Et alors, c'est généralement interdit de même faire le test de ce genre de choses, mais il y en a qui ont testé et qui ont constaté que oui, c'était pas impossible à faire.
Voilà, puis surtout, en fait, ils sont partis de dire des fabricants d'avions ou autres qui disaient non, c'est très bien, c'est très sécurisé, il
oui,
y a pas de
une sorte de rencontre organisée par les autorités de...
Les autorités de régulation,
De l'aviation. Ils avaient dit non, tout va très bien. Ils ont fait appel à un hacker en disant vas-y maintenant, montre-nous ce que tu peux faire. Et je crois qu'en 5 minutes, il a réussi à se connecter.
En 5 minutes, il était connecté sur le système qui permettait de faire le dialogue entre le sol et l'air. Et au bout de 24 heures, il était rentré dans le système, tous les systèmes de pilotage et autres. Donc voilà, il n'y avait absolument rien de sécurisé. Plus là, c'était de la partir du sol, mais il y en a qui ont aussi fait des tests en vol. Donc en particulier, un hacker qui avait un billet comme tout le monde, il a vu une petite prise réseau sous le siège, il s'est branché dessus, et là, il a réussi à prendre contrôle du pilote automatique, des commandes de
téléphone,
vol.
Hein.
Voilà, des commandes
c'est
de vol.
C'est juste terrifiant, hein, honnêtement. Alors forcément, soi-disant, faites-nous confiance, nous les constructeurs, surtout n'allez pas tester tout ça. Moi, ça me rappelle exactement Volkswagen, avec des choses qui font peut-être un peu moins peur, mais qui sont tout autant dérangeantes. Et en gros, surtout, n'allez pas toucher, n'allez pas étudier, n'allez pas modifier. Et les experts vont dans notre sens, c'est ça qui est appréciable. À un moment donné, ils disent, il faut ouvrir et il faut permettre à tout le monde d'auditer, d'étudier. Faut pas juste prendre à leur parole ces constructeurs qui n'ont pas forcément intérêt à dévoiler leurs faiblesses, parce qu'il y a des faiblesses, il faut aller creuser dedans, quoi.
Et puis surtout, ils ont un peu la culture de ce qu'on appelle le secret par l'obscurité. On va pas dire comment ça fonctionne, et puis comme ça on espère qu'on passera sous le radar.
Ah, une prise réseau sous le ciel, franchement, quelle blague, hein.
Et c'est vrai que c'est des protocoles qui sont pas documentés, il y a pas de doc. Voilà, quand on va se brancher sur un avion, faut y aller à tâtons, et ils espèrent que ça va bloquer les pirates. Bah la preuve que non, on y arrive assez facilement. Puis c'est des protocoles qui sont très anciens, donc forcément ça a toujours fini par s'éventer, fuiter, etc. Donc voilà, la protection par l'obscurité, ça ne marche pas.
Next Impact, l'EFF s'érige contre la possibilité d'inclure des DRM dans le format JPEG, un article de Vincent Herman.
Donc là, les DRM, bon, bah, en fait, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que des photos, on les récupère à droite à gauche sur Internet, et c'est vrai que ça fait des banques d'images réutilisées un peu n'importe comment, et donc tous les ayants droit et autres aimeraient bien mettre des petites DRM là-dedans pour éviter de se retrouver avec des photos n'importe où.
Tous les ayants droit, à mon avis, il y a certaines entreprises, c'est justement les entreprises qui gèrent ces banques d'images, qui louent des images à droite à gauche, éventuellement qui peuvent les vendre, ça dépend, ils ont différents modèles, et ils sont tout le temps en train de faire la chasse à qui réutilise cette photo, qui réutilise ce pont, cette image d'un enfant. Et vous voyez un petit peu tous ces trucs, les grands sourires qu'on voit sur les sites web de plein de boîtes. Eh bien, ce sont des banques d'images qui les fournissent et ils ne veulent pas qu'on les réutilise à l'envi. Et ils veulent et ils voudraient pouvoir bloquer cette réutilisation hors de ce qui est autorisé par eux, hein, bien sûr. Et donc, ils font un petit peu le forcing pour que ce soit inclus dans les images, soi-disant pour nous aider, hein, bien sûr.
Et donc, le FF dit, bah ok, on est d'accord avec vous sur le constat qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle de possible sur ces trucs-là, mais les DRM sont une très, très mauvaise solution pour ça, et qu'on risque d'avoir des dommages collatéraux assez énormes, comme on a pu le voir avec les CD déjà et les DVD audio et vidéo, avec des choses qui sont complètement inutilisables.
D'autant plus que là, ça touche Internet.
Voilà, ça touche Internet.
Pense également aux DRM dans HTML5. Pour gérer les vidéos, donc il y a déjà une grosse bouse dont on a hérité. Et là, bah, évidemment, ça touche les images. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils disent que, notamment les réseaux sociaux, enlèvent toutes les métadonnées sur les images, et que déjà, s'ils gardaient les métadonnées, ce serait plus facile de retracer l'origine des photos, et que ce serait déjà un pas pour améliorer ce truc-là, quoi. Numérama, 260 experts exigent l'open source pour les firmwares importants, un article de Guillaume Champeau. Donc là, c'est le mouvement retour de quelque chose qu'on a eu il y a quelques semaines. Les firmwares, c'est les pilotes, hein, c'est les petits bouts de logiciels qui vont permettre de faire fonctionner du matériel, comme par exemple du Wi-Fi.
Voilà, et donc en fait, le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a une fédération des télécommunications américaines qui a dit, bah, pour éviter de se retrouver avec du parasitage des ondes radio et autres, bah, on va interdire la modification des firmwares. Donc c'est clairement pas l'avantage du logiciel libre, parce qu'aujourd'hui, les choses qu'on avait le droit de reflasher un routeur ou autre, bah, maintenant, on n'a plus le droit. Et donc ça rejoint un peu la problématique des avions, c'est que bah, ils aimeraient bien tout refermer au maximum pour éviter les piratages, soi-disant. Alors que là, bah, pareil, ils disent non, au contraire, il vaut mieux ouvrir et puis améliorer les systèmes plutôt que d'aller les refermer de plus en plus.
Alors, à l'occasion de ces discussions-là, aux US, bah, on a découvert, moi en tout cas, j'ai découvert qu'en Europe, il y avait déjà des directives européenne qui bloquait la modification de certains firmwares au nom du contrôle, au nom de non mais vous ne devez pas empiéter sur les usages des autres personnes autour de vous. Et non, il y a déjà des directives qui vont dans ce sens-là et qui nous font mal au cœur parce que ça va à l'encontre complètement de pouvoir étudier, modifier, distribuer des logiciels qui sont parfois intéressants au nom, bah non, bah, vous comprenez, vous risquez d'embêter votre voisin avec des ondes radio un peu trop fortes. Bah c'est un principe qui est un petit peu idiot, hein, mais qui est en train de se mettre en place.
Ah bah après c'est quand même un peu critique, hein, parce qu'on vient quand même perturber des avions ou des communications militaires, donc c'est vrai que de pas pouvoir faire n'importe quoi c'est justifiable, mais pas
ça dépend quand même des appareils, voilà, pas globalement pas avec les appareils qui font du Wi-Fi ou ouais, qui font du GSM, parce mais que bon, c'est de ça dont il s'agit, hein. C'est des petits appareils qu'on embarque dans nos poches, c'est pas ceux-là normalement qui vont aller perturber les avions et les communications militaires.
Normalement c'est légalement interdit, mais...
Dans ce groupe de 260 experts, il y a Vint Cerf, qui est un des papas de l'Internet. Et il note également que, bien souvent, les firmware propriétaires du matériel propriétaire sont pourris, il y a des failles de sécurité dedans, etc. Et c'est pas juste pour faire joujou avec, mais c'est aussi dans une démarche bah, de sécurité et de contrôle et de vérifier, etc. Et on retrouve notre même problème que les avions, que les voitures. C'est un truc là qui a le vent en poupe. Et manifestement, avec vraiment des problématiques contradictoires entre ceux qui veulent fermer et ceux qui veulent ouvrir. Lemonde.fr, si vous n'avez rien suivi au TAFTA, le grand traité qui effraie, un article de Maxime Vaudano.
Bah ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein. Ça revient juste un peu sur les différents points bloquants dans ce traité-là.
Article qui fait le résumé, donc voilà. Allez jeter un œil si vous ne connaissez pas encore le TAFTA, TTIP, les différentes bêtises qu'ils essayent de nous mettre en place là, et qu'on n'aime pas. Plein de gens se battent contre, donc c'est pas sûr que ça passe, mais y a vraiment des gros lobbies qui sont derrière, des grosses boîtes, donc on est un peu embêtés parce que on sait pas où ça va. Quoi.
Et puis on est surtout à peu près au cinquième qu'on essaye de dégommer, donc on espère bien qu'ils nous en feront pas un sixième derrière ça.
Voilà. Très bien, on a fait le tour de cette revue de presse. Merci Manu.
Et merci Nico.
Et à la semaine prochaine tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.